Lizzie présente Mousseline la sérieuse de Sylvie Hiver, lue par l'autrice. Ce qui nous reste de Louis XVI. Du pain, du pain, du pain. J'entends encore, comme si c'était hier, ces clameurs provenant de l'avenue de Paris, surgissant sous nos croisées, à Versailles. Cette irruption tumultueuse fut pour moi, plongée dès ma naissance dans les fastes somptuaires d'une cour ancestrale, un violent baptême politique. Souvenez-vous, de votre roi j'étais la fille oubliée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la sœur aînée de Louis XVII et la seule rescapée de la prison du Temple. Née princesse royale sous le drapeau blanc, dans une monarchie de droit divin, au milieu des ors d'un palais voulu par le roi Soleil, j'ai assisté il y a peu à la première élection d'un président de la République au suffrage universel, sous la bannière tricolore. Entre-temps, j'ai affronté les convulsions de l'histoire. Trois révolutions, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République. Aujourd'hui exilée, j'avais 10 ans lorsque la monarchie s'est effondrée, et jamais princesse ne fut davantage poursuivie par le malheur. Qu'on en juge. Emprisonnée plus de 3 années, dont une sans savoir que ma mère et ma tante, à l'instar de mon père, avaient été exécutées, ni que mon frère les avait suivies dans la tombe. Libérée, je fus 3 fois contrainte à l'exil, pendant 4 décennies, passant ainsi la moitié de mon existence éloignée de ma chère France. À 70 ans, usée et lucide, je suis une survivante. Aujourd'hui, en 1850, je prends la plume, au bord du grand canal de Venise, et non celui de Versailles, où enfant je pêchais à la ligne. Si j'ai fait montre d'une réserve légendaire, ne confiant mes peines qu'au ciel, je cède maintenant au besoin que mon cœur éprouve de témoigner et de léguer mon histoire, qui se confond avec celle, ô combien tourmentée, de notre pays. Si la Révolution évoque la Bastille, le serment du jeu de paume, Varennes, l'incarcération de ma famille, la décapitation de mes parents et la mort de mon frère au Temple, peu en connaissent les cruels détails. Ceux-ci paraîtront minutieux aux cœurs froids qui n'ont pas connu nos misères, et je n'y pense jamais sans m'étonner d'être encore en vie, étant resté sur le volcan révolutionnaire si souvent en éruption, prêt à m'ensevelir dans ces gouffres où tant de malheureux, en sus des miens, ont péri. Que sait-on en vérité des événements qui ont suivi, hormis qu'un général corse a prétendu fonder un nouvel empire romain? Se souvient-on que les Bourbons ont repris, une dernière fois, la destinée du royaume, rétablissant la paix et la prospérité dans un pays exsangue? Fille, nièce et belle-fille des 3 derniers rois de France, qui étaient frères, j'ai été l'ultime et furtive reine de France et de Navarre, selon Napoléon, le seul homme de la famille. Qui se le rappelle? Depuis la disparition des miens, j'ai été regardée comme une mangeuse de reliques, voire comme ce qui nous reste de Louis XVI, ou encore la fille du roi martyr, l'orpheline du Temple, l'Antigone française. N'ai-je été que cela? Au seuil de la tombe, j'entends défendre les Bourbons devant le seul tribunal recevable ici-bas, la postérité. Tant de sottises ont été écrites, tant de contre-vérités assénées. Faisant violence à mon tempérament peu loquace, je veux enfin raconter une histoire vécue, de chair et de sang. Si l'on venait à croire que j'ai voulu sacrifier la vérité à la reconnaissance, cela n'est pas mon intention. Je ne cherche pas non plus à attirer la pitié, je ne l'ai que trop subi. Mais si l'histoire est un mensonge que personne ne conteste, alors qu'on me permette de la réfuter, car les faits que je vais rapporter pourraient se révéler plus surprenants que les œuvres de l'imagination. Livre 1, La Suppliciée, 1778-1795. Chapitre 1, Une jeune princesse, Mousseline la Sérieuse. Je suis née sous les meilleurs auspices, le 19 décembre 1778, dans les splendeurs de Versailles, le plus beau palais d'Europe, devant le flot de la cour. Les douleurs de ma mère, d'abord supportables, se muèrent en féroces tranchées qu'elle endura avec courage. La violence qu'elle s'infligea, pour ne pas gémir, ni même se plaindre, et le manque d'air dû au paravent disposé autour du lit, manquèrent de la faire expirer. Tandis que les médecins s'affolaient, mon père, d'une force herculéenne, parvint à ouvrir les croisées dûment calfeutrées pour l'hiver. Elle jeta alors un cri. J'étais mise au monde. Lorsqu'elle reprit ses esprits, ma mère me pressa sur son cœur. Si je n'étais pas désirée, je ne lui en serais pas moins chère, car un fils eût davantage appartenu à l'État, tandis qu'une fille serait à elle. Les ordres n'arrivant pas, le gouverneur de la Bastille ne fit pas tirer le canon, comme le voulait la tradition, afin de saluer ma naissance. Fallait-il y voir un mauvais présage ? Mes parents, unis à 14 et 15 ans, ne parvenaient pas à consommer leur mariage. Après 8 années, ma mère, qui espérait enfin être grosse, prenait pour des maux de cœur jusqu'aux idées qui lui passaient par la tête. Lorsqu'elle me sentit remuer pour la première fois, elle se précipita chez mon père pour le lui annoncer, et, d'un air faussement fâché, elle s'exclama « Je viens, sire, me plaindre d'un de vos sujets assez audacieux pour me donner des coups de pied dans le ventre. » Il en pleura de bonheur. Après cette délivrance, je reçus les prénoms de mes parrains et marraines, Marie-Thérèse Charlotte. Marie-Thérèse, comme ma grand-mère maternelle, l'impératrice d'Autriche, et Charlotte, en hommage à mon oncle paternel Charles III d'Espagne, ce dernier nom étant usité dans l'intimité. En dehors de ce cercle, on m'appela d'abord la petite madame, puis madame royale. Le soir même, un tédéum fut chanté dans toutes les paroisses parisiennes. Du pain et du cervelas furent distribués aux nécessiteux et on offrit un trousseau aux jeunes mariés. Enfin, une représentation gratuite fut donnée à la Comédie-Française où les charbonniers et les poissardes eurent le droit d'occuper la loge du roi. Qui sait d'ailleurs que 3 fois par semaine, le peuple français pouvait se rendre à Versailles, à condition d'être convenablement vêtu, et se promener dans le parc et dans les salles. Ma mère se préoccupa de mes soins dès avant ma naissance. « On n'emmaillote pas les bébés, disait-elle. Ils doivent toujours être dans une bercelonnette ou sur les bras. » Elle aurait aimé me nourrir au sein, mais cela lui fut interdit. En ce temps-là, une femme de garde restait au chevet des enfants de France toutes les nuits, levée et habillée, jusqu'à leurs 3 ans. Pas moins de 4 nourrices m'étaient dévolues. Chaque fois que j'étais malade, ma mère quittait tout pour moi. Ma première gouvernante fut madame de Guéménée, la sous-gouvernante, madame de Macau, dont la fidélité ne se démentit jamais. J'occupais alors, au bout de l'aile du midi, une chambre rouge et or, ouvrant sur une terrasse, devant l'orangerie. Gouvernantes et domestiques étaient à mon service, tous dotés de tâches précises. Faire ma toilette, me vêtir, me dévêtir, me coiffer, me nourrir ou encore ranger mon linge. Nous devons à Louis XIV l'invention de cette cour grouillante, de sa liturgie empesée et de sa lourde étiquette. Dieu que cet héritage a rendu notre famille impopulaire. Mais comment y échapper ? Ma mère avait souhaité alléger, sans succès, la nuée de dignitaires qui m'entouraient, ces gens de service n'étant propres, selon elle, qu'à favoriser les sentiments d'orgueil. Hélas, elle fut contrainte de rendre les armes. In fine, tout lui fut également reproché, l'apparat comme la simplicité. En s'aliénant les nobles et antiques familles détentrices de charges, en affichant une façon de vivre presque bourgeoise, Mes parents descendirent la première marche du piédestal où la naissance les avait placés. Mon père comprit trop tard combien la familiarité éloigne le respect.